pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde, datée de vendredi 12 mai, Tony Blair réitère son soutien à Emmanuel Macron. Il lui donne quelques conseils de grand frère. Il estime que les deux hommes sont arrivés au pouvoir dans des situations similaires et qu'ils partagent la même vision de la gouvernance économique. La gestion de l'économie, écrit Tony Blair, n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise. Puisque notre série Place de la République s'intéresse aux services publics et que nous sommes chaque semaine dans un lycée, un hôpital, une caisse d'allocation familiale ou un tribunal, regardons donc de plus près ce que notre lointain cousin anglais a fait avec ses services publics en 10 ans de blairisme. Il faut dire que lorsqu'il arrive au pouvoir, les services publics britanniques sont dans un état déplorable. Il commence par lancer une vaste enquête sur ce que souhaitent prioritairement les Anglais. Il y apparaît qu'ils veulent réduire les files d'attente des hôpitaux, les morts dans les accidents de train, l'insécurité à l'école, etc. Il en sort 122 objectifs précis, dont 22 seront suivis personnellement par M. Blair. 3 secteurs sont prioritaires, la santé, les transports et l'éducation. 600 000 emplois au total sont créés, des investissements énormes sont effectués, détaille Gabriel Zucman dans une étude qui s'appelle « Le blairisme et les services publics ». La rénovation des écoles, des hôpitaux et du métro, par exemple, se fait en associant étroitement le privé à leur construction et leur gestion. L'administration Blair met en place les fameux partenariats publics-privés, les PPP. Les équipements restent publics, mais les méthodes de gestion de ces entreprises ainsi que leurs salariés appartiennent au secteur privé. Certains souligneront que les PPP coûtent finalement plus cher aux contribuables que des services publics directement gérés par l'État et qu'ils tendent à offrir aux usagers des services de qualité inférieure. L'autre passion de Tony Blair, ce sont, explique toujours cette étude en 2007, les targets, des objectifs chiffrés, des indicateurs de performance proposés à chaque administration. En 1998, un an après son accession au pouvoir, il annonce la création de 300 objectifs chiffrés pour tous les ministères. Une bonne dizaine d'années plus tard, et une crise économique mondiale aussi, on retiendra ce côté contrôle freak du blairisme. On sait aussi que les écoles, les routes, les patrouilles de police, ou même les appels d'urgence des pompiers, des ambulances, bref, des pans entiers des services publics britanniques ont été privatisés ou sous-traités. Avec l'austérité, des dizaines de milliers de postes ont été à nouveau supprimés, des salaires baissés ou peu augmentés, des coupes réalisées un peu partout. En 2017, le système de santé anglais était jugé, même par le Figaro, au bord de la rupture, les médecins dénonçant des conditions dignes du tiers-monde. Aujourd'hui, Place de la République numéro 20, une nouvelle ère s'ouvre chez nous, une nouvelle photo d'un nouveau président arrive au lycée Fourier, à l'hôpital de Die peut-être dans la Drôme et à la CAF d'Amiens. Un reportage de Pauline Maucor, Olivier Minot et Rémi Douatte, réalisé par Philippe Baudouin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Lycée Fourier, bonjour.
Alors, on est où, là ?
On est au dortoir 53. Et là, j'ai commencé ma soirée en tant que surveillant d'internat pour cette nuit. Donc, je commence mon service à partir de 17h45 jusqu'à 7h15 demain matin. C'est là que je travaille 3 soirs par semaine. Là, ici, il y a Maxime Prempart. Là-bas, il y a Diego. Là, il y a Tom, Andy. Bon, il y en a deux qui sont à la douche, c'est Valentin et puis Paolo.
Donc, le dortoir, c'est une grande allée centrale et les boxes de chaque côté.
Voilà, c'est ça, des boxes ouvertes. C'est vrai que ça manque un petit peu d'intimité, mais en même temps, ça permet de s'ouvrir un petit peu plus les uns vis-à-vis des autres. Là, il y a certains des internes qui sont en train de s'exercer. Là, ils sont dans la phase abdominaux intensive.
Et pourquoi tu fais ça?
Bah, pour être plus développé au niveau du corps, les muscles qui ressortent quand même. Pour être mieux physiquement, quoi. Pour être plus beau visuellement quand même.
Alors ici, on a Clément Bouchèze.
Et c'est vous le délégué de l'internat?
Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu plus de responsabilités, en fait. S'il y a des choses que j'entends qui se passent pas bien ou...
C'est mon interlocuteur privilégié qui parle au nom de ses camarades. Il a une passion, Clément, c'est l'écriture. Il écrit beaucoup. Il est talentueux, d'ailleurs.
Je relis classe et habilité des mots. Je parle de crasse les deux pieds dans la flaque d'eau. Appelle-moi flash à la rapidité des mots. Je te clash, j'ai sorti les crocs. Je fume plus, je bois plus. Certains diront que c'est bête d'arrêter. D'autres diront qu'il faut continuer dans la lancée. J'ai pas la foi d'avoir soif de boire vos boissons alcoolisées. Dans un bois sombré, dans le péché de l'humanité, cristallisé dans la connerie pour l'éternité, je plains les bébés dans les maternités, jetés plus tard dans plusieurs corps de métier. Au décret de la monnaie donnée par leurs parents divorcés. Hé
les gars, chacun dans votre chambre. Ouais, chacun dans votre chambre, les gars.
Bon, en fait, c'est des textes que j'écris, des textes de rap. C'est un peu une passion pour moi et c'est aussi ce qui me permet de me mettre dans ma bulle à l'internat. Parce que j'ai besoin d'intimité et ça fait du bien de se retrouver un peu soi-même. J'aime bien parler de la vie en général, de ce que je vois, de ce que je vis moi-même. En fait, comme j'ai fait deux secondes générales qui me plaisaient pas du tout, je travaillais pas. Je l'ai en cours démotivé et ça m'empoisonnait la vie parce que au final... Ça m'a fait avoir des disputes avec mes parents, qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi, qui m'ont pas compris tout de suite, qui m'ont compris par la suite, après, et qui maintenant voient que je m'épanouis dans ce que je fais, et donc qui sont contents pour moi, quoi. Dans notre internat, il y en a beaucoup, plusieurs, qu'on fait de la seconde générale et à qui ça n'a pas plu. Et on nous a mis là parce que au collège, on avait des facilités. Alors qu'au final, la seconde générale, c'est pas fait que pour ceux qui ont des facilités, c'est ceux qui ont envie de faire une seconde générale et après de continuer. Après, quand je dis une société empoisonnée, emprisonnée, c'est pour dire que on est emprisonné dans un moule un peu. Dans un de mes textes, je dis pirate politique, je m'en branle, je critique. Et c'est un peu pour dire comme quoi, en ce moment, vraiment, la politique, c'est des escrocs, comme je le pense. Je préfère critiquer, par exemple, la politique que critiquer des profs, par exemple. Parce que les profs, eux, ils nous apprennent quelque chose de bien, quelque chose qui nous sera utile, alors qu'en politique, ils nous apprennent pas toujours la bonne chose. Par exemple, je vois ces Fillon avec ses problèmes d'argent, etc., des fraudes fiscales et tout. Ça donne de mauvais exemples à la France, à nous, les jeunes, qui plus tard vont payer des impôts, etc. Clairement, si je faisais de la politique et que je réformais l'école, je ferais en sorte que les métiers manuels soient aussi autant valorisés que les cours généraux, quoi. Parce que c'est vrai qu'au final, on nous apprend vraiment bien à faire notre métier. On nous apprend à aussi aimer notre métier, parce que certains qui sont dans ma filière, par exemple, ça leur plaît pas tellement, mais ils y prennent quand même goût, parce que même si après l'année prochaine ils vont peut-être changer de filière, au moins ils auront quand même pris goût à ce qu'ils ont fait cette année.
C'est l'heure d'aller se coucher. Je te souhaite une bonne nuit, Clément.
Merci. Merci, bonne nuit.
Hôpital de Dieu, bonjour.
Oui. Je vous donne un Fortimel. Ah. Vous préférez un jus de fruits ou un laitage?
Oui, celui-là. Oui.
Laitage?
Oui.
Oui.
Voilà.
Merci.
Allez, le petit goûter.
Oui, merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour. Je peux vous prendre l'attention?
Ouais.
Oui, ouais. Vous n'avez pas essayé de marcher dans le couloir un petit peu comme hier?
Oui, après j'ai dormi.
Parce qu'il faut tester, ça allait mieux aujourd'hui, donc il faut voir si ça continue à aller mieux.
Ouais, mais qu'est-ce que je tousse encore?
Ouais, je sais, mais je l'ai marqué pour demain pour la visite.
Là, j'ai une amie avec qui on fait du voyage, elle m'a appelé là, j'ai dû lui dire 3 mots et 15 tout.
Ah, donc c'est depuis que vous avez pris le cachet pour la tension que vous toussez.
Oui, ouais, moi j'en ai essayé des cachets de tension. Hein.
Après, il a eu.
Au début, j'avais des cachets. Pour baisser la tension, je mangeais 3 morceaux et hop, tout ressortait comme ça me faisait tousser.
De toute façon, je l'ai marqué. Demain, le médecin verra. Hein?
D'accord.
Allez, à plus tard.
Merci.
À plus
tard.
Au revoir.
Il manque encore du personnel.
Il manque du personnel, mais pourquoi?
Il y a eu un arrêt à l'étage au-dessus, donc celle qui était là la semaine dernière est montée à l'étage. Du coup, vu que sur sa série, elle a fait une nuit de plus, il fallait que le cadre lui enlève une nuit sur la semaine d'après. Et du coup, elle lui a enlevé la nuit de ce soir. Voilà. Ça va faire plus de travail à l'aide-soignante du service d'à côté, parce qu'elle va venir gérer les patients d'ici, en plus des siens. On s'auto-remplace, on est un coup ici, un coup ailleurs.
Espérons un nouveau président. Il va créer des postes dans les hôpitaux. C'est ça qu'il faut voir.
Ce dont j'ai envie, c'est que la France soit apaisée, qu'il n'y ait pas ce climat de tension dans lequel on vit. J'en ai ras-le-bol des disputes. Là, ça fait trop. Là, depuis octobre, on n'en peut plus de la politique. On ne parle que de ça. Mais il y en a marre. Quoi. J'ai envie de parler d'autre chose.
Ça va, ben, je vois que vous vous occupez.
On a trouvé un jeu peut-être qui fait passer le temps.
Allez.
Un petit coup dans l'oreille. Température?
Ouais.
Et pendant ce temps-là, on pompe.
Pas de température.
Voilà.
Je peux vous prendre la tension?
Ouais, si vous voulez. Avec toutes ces péripéties de vote, il y aurait beaucoup à dire. Hein.
C'est sûr, hein?
Ah ouais. Oh là. Je suis content que ce ne soit pas elle qui soit passée, puis c'est tout. Hein.
Ouais. Vous inquiétez pas, moi aussi je suis content que ce ne soit pas elle. Hein.
Ouais.
On est bien d'accord.
Mais c'est vrai que lui, c'est pas une perle non plus. Hein. Oh, c'est pas. Alors, on sait pas bien où ça va aller, tout ça. Moi, j'avoue que on va en décadence, on va pas en progression. Hein.
Faut garder l'espoir.
Sur le plan ouvrier.
Social.
Et puis le malaise partout, les gens qui se battent, les religions qui se massacrent, ça tient pas debout tout ça. Moi quand j'étais gosse, la religion en France était très très... C'était à la porte de toutes les maisons, j'étais dans un petit village de 500 habitants. Je crois qu'on était 3 familles à ne pas aller à l'église. On nous a craché dessus à l'époque.
Ah oui.
Ah oui. Alors ça n'a pas fait pour nous engager dans ce genre de choses. Ah oui.
L'intolérance a toujours existé.
Ah oui. Ah, l'intolérance.
Hier, il a eu une permission. C'était très important, hein.
Ah oui.
C'était bien.
Ah oui.
Il est revenu.
Ouais.
Il avait rajeuni de 10 ans.
Ouais. De 10 ans, oui, ça serait pas mal. Hein.
Hein, ça serait pas
Parce
mal.
Parce qu'il y a 10 ans, je courais encore, c'est bien. Hein.
On irait faire un tour sur Glandas.
Eh oui, les montagnes ici, je crois que je les ai toutes faites.
Ouais.
Ah, j'ai passé des moments merveilleux. Il y a une liberté là-haut que... qu'on ne trouve pas en bas.
C'est sûr.
Alors, quand vous séjournez plusieurs jours, c'est le rêve, quoi.
Ouais. À la belle étoile.
À la belle étoile, ouais.
À la montagne.
C'est fabuleux, quoi. C'est un autre monde. Puis bon, il reste les souvenirs. Ça reste dans sa tête, quoi.
C'est sûr.
Ben oui.
Bon, allez, je vous laisse et je reviendrai vous voir tout à l'heure.
D'accord. Merci.
Alors, j'aime pas bosser les jours fériés parce que faut quitter la famille. Mais par contre, bien dans le service, ça n'a rien à voir avec la semaine. J'ai tellement le temps de discuter avec les gens, d'aller m'asseoir 5 minutes. C'est génial.
L'abandonner, la femme qui a tête chinois. Hein.
Ah, ben alors, vous disiez que c'était bien et vous.
Oui, il n'y arrive pas à rien faire en fait dedans, là.
Alors, il faut que vous preniez un jeu de domino plus simple.
Plus simple.
Hein?
Et c'est là où c'est dur, c'est qu'ils disent. Possible à partir de 35 mois.
Qu'est-ce que je veux dire ? Vous inquiétez.
Et dire que j'ai des enseignements, ils me font tomber dans le sens.
Vous étiez enseignant ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Ben, j'étais instituteur de ville et de campagne.
Vous aviez combien d'élèves dans les classes ?
Mais de 5 à 18.
Si jamais plus.
Ah non, ben plus, parce que si vous avez tous les cours avec 18, vous potez les plombs, oui. C'est pour ça que j'arrive même plus à faire ça.
Mais voilà, vous avez eu trop souvent trop d'élèves.
J'en ai eu peu aussi, à 5. 5, c'est pas beaucoup.
Ouais.
Ça menaçait de fermer.
Et c'est resté ouvert quand même.
Oui, parce qu'ils ont fait venir plus ou moins une école, une famille de Portugais ou quelqu'un qui travaillait dans le coin. Ils ont logé.
D'accord.
C'est pas hier, c'est en 2002.
Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? Depuis 2002?
Ouais, je suis un vieux, oui.
Non, peut-être que vous avez eu la retraite jeune.
Non, 55.
Ah bah oui, c'est jeune.
Si vous voulez, on avait des bonnes hommes politiques, alors. Non, on a bien voté.
Parce que maintenant, 55, ça nous fait rire.
C'est vrai, maintenant c'est plutôt 62, 65. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite sucrète des fois de temps en temps?
Une sucrète?
Oui, c'est pour mettre dans un yaourt.
Eh bien, même, vous pouvez en avoir plusieurs. Peut-être que je peux vous donner ça. Vous avez de la chance. Hein.
Revenez quand vous voulez.
C'est un bon jour.
Non, je dis ça, c'est parce que là, j'ai envie de manger un yaourt, mais alors sans sucre, c'est pas bon.
Mais je vais aller vous chercher tout de
suite. Non, mais bon, merci.
J'y vais.
Merci. Allez.
France Culture, les pieds sur terre.
Bonjour madame.
En fait, j'ai fait ma demande d'APL l'année dernière au mois de juin. Et je devais être payée, enfin avoir des versements à partir du mois d'août. Et j'ai toujours eu aucun versement. Et là, je vais déménager. J'ai toujours pas eu mon APL. Donc mon copain, c'est sa mère qui lui avance. Mais là, on n'a plus de sous pour avancer. Donc il ne peut plus payer le loyer. Quoi.
Apparemment, il nous manquait un bulletin de salaire.
Ah non, je les ai fournis deux fois.
Attendez, j'ai pas terminé. Il nous manquait votre bulletin de salaire du mois de juillet.
Ouais,
que j'ai réceptionné le 14 avril et qui est en cours de traitement. Votre dossier est en cours de traitement, on a 6 semaines de délai. Ça va plus tard d'être traité.
Ouais, mais je suis venue il y a 6 semaines, on m'a dit pareil. Parce que là, ça fait quand même 10 mois. Enfin, je suis bien gentille, je dis rien depuis 10 mois,
sauf
mais là.
Que le bulletin de salaire, madame, on l'a eu que le 14 avril.
Je l'avais déjà fourni, on me l'a redemandé. Ouais. J'en suis sûre. On me l'a demandé au début, on m'a dit il faudra celui de juillet et celui de novembre, on m'a demandé. Donc j'ai fourni les deux.
Effectivement, je l'ai.
Donc là, ça veut dire que dans moins de 10 jours, je vais avoir mon versement.
Non, un traitement. Je ne parle pas de versement.
Moi,
je ne peux pas vous certifier si vous avez bien un droit à l'aide au logement.
Si, on m'avait dit que si.
Moi, je ne peux pas vous le certifier aujourd'hui puisque ça n'apparaît pas sur votre dossier. Mais s'il y a bien un droit, on vous fera un versement courant du mois de mai, madame. Ça va plus tarder à être traité, madame.
Ouais, ça fait 10 mois qu'on me dit ça, j'espère. Ok, bon, bah, en espérant.
Ça va être
bon, j'espère pas, à bientôt.
Merci, journée, madame. Au revoir.
Comment on peut expliquer un tel retard?
C'est un problème de traitement. Parce que moi, le bulletin de salaire, je l'ai vu. Il est arrivé depuis le mois de juin. Quand ça arrive, il faut pouvoir récupérer la faute derrière.
Et c'est une erreur comme celle que vous avez eue, vous la faites remonter
On la fait remonter par note interne, mais non, on ne fait pas remonter Non, on se tape pas sur les uns sur les autres. Non, parfois il y a des très grosses erreurs où on ne peut pas faire autrement que de faire remonter à notre responsable. Il y a des choses qui ne sont pas traitées en temps et en heure, des rappels qui ne sont pas effectués, donc là on n'a pas le choix que de faire remonter. Parce que c'est nous derrière qui sommes avec la locataire, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à désamorcer comme situation. Et on est en porte-à-faux par rapport à la locataire, on respecte pas les délais qu'on lui a annoncés, donc forcément derrière on n'a pas le choix à un moment donné.
Mais là pour cette dame, en fait, il n'y a pas d'alloc pendant 6 mois.
Oui.
Et c'est un gros problème quand même.
Je sais, je vous dis pas le contraire, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant, j'ai pas d'explication.
Je pensais que ça avait été coupé, que le conseil départemental m'avait versé pendant 3 mois et après qu'on me l'ait coupé. Alors donc je me suis dit, bon bah ils m'ont coupé, c'est fini quoi.
Oui, mais regardez, là on vous dit qu'il y a une sanction du conseil départemental. Pendant les 3 premiers mois, vous avez une réduction de votre RSA. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de droit, donc avril, mai, juin, vous auriez pu avoir quand même un paiement RSA. Vous n'en avez pas eu parce que nous... On a eu certes connaissance de ça, mais on n'avait pas votre déclaration trimestrielle en parallèle.
D'accord.
Parce que c'est pas un non-droit, c'est une non-étude de votre dossier en fait. Vous n'avez pas accès à Internet, monsieur, chez vous ?
Non.
D'accord. Je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas fait vos déclarations.
Je n'ai pas de ressources à part mes parents, j'ai pas d'informatique, j'ai rien du tout à la maison. Donc pour le remplir, voilà. Il me l'aurait dit, j'aurais su que je serais venu ici pour le faire. Là, mettons, alors comme je n'ai pas d'informatique, si au cas où, il me leur donne, comment je fais maintenant pour remplir tout ça alors ?
Alors, moi je vous conseille de venir ici, en agence. Vous avez des ordinateurs qui sont à votre disposition.
D'accord.
Et des conseillers qui sont là pour vous aider à aller remplir ces déclarations. Donc c'est vrai que nous, maintenant, on demande aux allocataires de venir en agence ou de le faire de chez eux.
D'accord. Merci du conseil.
Plus, on n'envoie plus du tout de déclaration papier maintenant.
C'est logique.
La législation, c'est une nouvelle procédure qui a été mise en place en fait. Puisque c'est dans, vous êtes dans votre droit aujourd'hui.
Ah, c'est un truc de fou.
Est-ce que vous voulez refaire toutes vos déclarations trimestrielles ?
Et comment je fais pour faire ces déclarations ?
Je vous les donner, moi.
C'est vrai ? Mm-hmm. Bah écoutez, si c'est pour m'aider, je veux bien, madame.
Je pense que c'est justifié quand même.
Vous êtes adorable. Je vous remercie pour tout, madame.
J'arrive tout de suite, monsieur.
Merci.
En fait, vous touchez pas le RSA ?
Non. Ils m'ont envoyé pendant les 3 premiers mois et puis après, ça a été coupé. C'est une histoire de fou.
Parce que vous êtes dans quelle situation là exactement ?
Alors là, je suis sans emploi. Et comme je n'ai pas d'emploi, que je ne fais rien pour l'instant, bah, j'ai dû retourner chez mes parents. Donc en fait, j'ai toujours vécu avec mes parents. Voilà. Alors j'ai fait des formations, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. Puis après, j'ai perdu mon père. Et puis quand mon père est perdu, ma mère a été gravement souffrante. Et que de la laisser tout seule, bah, je reste auprès d'elle pour l'aider. Voilà, pour faire... je m'occupe à la maison. Ma mère passe avant moi, quoi, en vérité. C'est un peu triste de dire ça, mais... C'est ma maman. Je m'occupe de tout à la maison. Et puis en même temps, bah, ça lui fait une compagnie que d'envoyer dans une maison de retraite, quoi. C'est ma maman, je préfère rester avec elle. D'un côté, ça l'arrange et puis ça m'arrange. Si je peux parler comme ça. Bien sûr, je voudrais avoir mon indépendance, comme tout le monde, avoir un travail. Faire ma vie, quoi. Mais bon. J'ai du mal, en fait. J'aimerais quelque part, il y a des moments où je me dis, allez, il faut que tu essaies de partir. Et puis, puis, je sais pas, la nuit porte conseil, je la revois le lendemain et tout. Puis je me dis, non, je peux pas l'abandonner, je peux pas la laisser. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? J'ai peur qu'elle le prenne mal et qu'elle en subisse des mauvaises conséquences et qu'elle se laisse mourir. Tous les jours, je me dis. C'est dur, mais tous les jours, je me dis.
Qu'il faut partir.
Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Voilà. Pour moi, j'ai tout raté, quoi. J'ai raté ma vie. Hein. Là, j'arrive à 49 ans, j'ai 49 ans, et je m'aperçois que bah, ma vie, c'est... Voilà. Puis, à fur et à mesure, on a l'impression que oh, ça tombe, et là, on se dit, qu'est-ce que je vais devenir ? L'avenir me fait très, très peur. Parce que le jour où ma maman sera plus là, ben, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pas envie de me retrouver dans la rue. Ah ben, il va falloir que je me bouge un peu, quoi. Puis trouver un boulot derrière, hein. Ça va être dur, parce que là, maintenant, j'arrive à un âge. Ça va pas être facile pour moi. Voilà, si ça tourne mal, on peut finir une situation plus rapidement que prévu, quoi. Il y a des gens que je connais qui ont fini par se suicider parce qu'ils voyaient pas le bout du tunnel, puis ils ont dit autant finir, quoi. J'ai pas envie de finir malheureux dans la rue. J'ai pas envie que ça m'arrive. Je suis un peu trop jeune encore, quand même. Je suis trop jeune.
Dites-moi, il y a beaucoup de gens comme ça qui touchent pas le RSA et qui ont droit.
Oui, il y en a beaucoup. Des gens qui font pas leur démarche, ben justement pour l'histoire de ce qu'on disait tout à l'heure pour... Les connexions internet, ils n'ont pas d'ordinateur ou ils savent pas s'en servir. Des gens qui sont illettrés, ça arrive encore. Il n'y a pas que le RSA, il y a d'autres personnes qui ne font pas d'autres démarches, par exemple pour les aides au logement, pensant qu'ils n'ont pas de droits, alors qu'ils ont des droits. Après, nous, on a toujours pour but ici à la CAF d'aller contre le principe de non-recours. Le non-recours, c'est justement qu'ils ne fassent pas leur démarche pour et rester sans revenu. Donc justement, c'est pour ça que auprès du monsieur tout à l'heure, moi j'ai insisté, parce que bah, il est sans revenu, il n'a pas de moyens de subsistance et il voulait pas faire ses démarches. Donc je trouve pas ça juste, il en a besoin. Donc il faut qu'on lutte contre tout ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, place de la République, numéro 20, une nouvelle ère. Un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douat, réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Clément, à Bouffégela, Benadou et à tous les garçons du dortoir 53 du lycée Fourier d'Auxerre. Merci à Christine, à Philippe et à Francine. Et enfin à la CAF, à Didier Rousseau, à Karine Corme et à Nadine. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Notez-le bien, elle est encore là pour un bout de temps.